Vous êtes sur RTL. RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue effectivement dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, comme tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, l'Autriche qui reconfine et plus seulement les non vaccinés. Cette fois c'est pour tout le monde. En France, pas de reconfinement mais des classes fermées, trois fois plus qu'avant les vacances de la Toussaint. Et puis la justice ouvre une enquête après l'agression d'une collégienne de 13 ans et demi mardi à Albertville. Sarah a été roué de coups par trois autres jeunes filles. Document RTL bouleversant à découvrir dans un instant.
Après le journal 2, débats qui vont vous intéresser. Les Français ne veulent-ils vraiment plus travailler? Est-ce juste un problème de salaire? Dès aujourd'hui et tout le week-end, RTL s'intéresse à ces métiers en tension qui ont du mal à recruter. Et à 12h50, ce mystère qui entoure la princesse Charlène, l'épouse du prince Albert II de Monaco. Elle n'assiste pas aujourd'hui à la fête nationale organisée dans la principauté.
Notre question du jour sur RTL.fr. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire « je préférerais ne pas travailler » Ça vous est déjà arrivé, Pascal?
Non, parce qu'on n'a pas le sentiment, nous, que nous travaillons. C'est une passion.
Les auditeurs disent non, eux aussi, à 50%. Oui, à 36%. La météo du jour avec vous, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Bon, c'est plutôt pas mal sur les deux tiers du pays.
Oui, c'est vrai qu'il reste encore un petit peu de grisaille, essentiellement entre la pointe Finistère, les Hauts-de-France et le Grand Est. Ça comprend le bassin parisien. Avec un petit peu de chance, ça pourrait se lever partiellement cet après-midi en région parisienne, mais également en Bourgogne ou encore en Alsace. C'est pas totalement gagné, ni totalement perdu. Pour les autres, un temps ensoleillé, des températures un peu fraîches, mais sans plus. 9 degrés à Strasbourg aujourd'hui, 11 à Grenoble, 12 à Paris, 13 à Cherbourg, 14 à Lille et à Auch, 16 à Perpignan et 20 degrés à Ajaccio.
Et programme complet du week-end, ce sera avec vous tout à l'heure à 13h. À tout à l'heure.
RTL Midi.
Mais d'abord donc, l'Autriche qui serre la vis, c'est pas qu'un peu, reconfinement total dès lundi. La vaccination, Israël, bientôt obligatoire, Brice Dugénie.
Oui, la mesure de confinement uniquement pour les personnes non vaccinées, qui était en vigueur depuis 5 jours, n'aura donc pas tenu longtemps. Face aux 15 000 nouveaux cas quotidiens, aux soins intensifs qui seront saturés dans les jours qui viennent, eh bien le gouvernement autrichien passe la vitesse supérieure. Confinement pour tout le monde dès lundi. Selon le docteur Peter, qui gère un centre de vaccination à Vienne, la capitale, c'est la seule solution face à la flambée du nombre de contaminations.
Le développement de l'épidémie est très important en Autriche. Nos taux d'infection sont parmi les plus élevés du monde. Je ne vois pas d'autre moyen qu'un confinement pour ramener cela à des niveaux convenables. On doit reprendre le contrôle.
Et pour reprendre le contrôle à plus long terme, au-delà donc de cette mesure d'urgence, eh bien le chancelier Alexander Schallenberg a décidé ce matin de rendre la vaccination obligatoire.
Nous avons pris la décision d'imposer la vaccination au niveau national. Cela entrera en vigueur le 1er février 2022. Nous ne voulons pas de cinquième vague. Le virus ne s'en va pas. Il reste. La vaccination, c'est notre porte de sortie.
Actuellement, 65% des Autrichiens sont vaccinés. Il reste donc un peu plus de 2 mois aux 2 millions de non-vaccinés pour le faire.
Brice Dugénie du service étranger de RTL. Ici en France, pas de reconfinement à l'ordre du jour, pas même pour les non-vaccinés, dit ce matin Emmanuel Macron dans les colonnes de la Voix du Nord. On surveille en revanche de près toujours les chiffres, le nombre de classes fermées notamment. Il atteint son plus haut niveau depuis la rentrée, Marie Guerrier.
Oui, c'est un peu plus de 3 fois le nombre de classes fermées juste avant les vacances de la Toussaint. 4048 cette semaine. Au lieu de 1246 le 22 octobre. Les académies de Lille et Versailles sont à plus de 300 classes fermées, plus de 200 pour Bordeaux, Créteil, Nantes, Grenoble et Lyon. Sur l'ensemble du territoire, cela fait 0,8% des classes fermées. 28 écoles également, soit 0,05% des établissements. Le nombre d'élèves positifs a aussi été multiplié par 3, on a dépassé 10 000, et 3 fois plus de personnel et d'enseignants, 776 cas Covid cette semaine. Dans la population générale, les chiffres hebdomadaires de Santé publique France indiquent une hausse du taux d'incidence dans toutes les classes d'âge. Elle est notable chez les enfants de 0 à 9 ans, 106 cas pour 100 000 habitants, plus 62% en une semaine, mais cela coïncide avec la reprise des tests de dépistage dans les écoles au retour des vacances de la Toussaint. Je vous rappelle la règle à l'école primaire, c'est la fermeture de la classe dès l'apparition d'un cas positif, sauf dans 10 départements pilotes où une équipe mobile de laboratoire se déplace afin de tester l'ensemble des élèves de la classe. Ceux qui sont négatifs peuvent continuer de suivre les cours à l'école. Ce système a permis par exemple dans le Rhône cette semaine d'éviter la fermeture de 67 classes, indique le rectorat.
Merci beaucoup Marie. Marie Guerrier, concernant la généralisation de la troisième dose, Emmanuel Macron dit vouloir attendre l'avis des autorités sanitaires. Le chef de l'État attendu cet après-midi dans les Hauts-de-France, sur les terres de Xavier Bertrand, un déplacement forcément qui sera très commenté à 5 mois de la présidentielle.
Emmanuel Macron, justement, il est toujours en tête des intentions de vote, si l'on en croit notre sondage BVA pour RTL et Orange.
Entre 26 et 29% selon les hypothèses, à peu près stable par rapport à septembre. Marine Le Pen et Éric Zemmour, en revanche, progressent et représentent à eux deux un tiers des intentions de vote. Bonjour Vincent Derosier.
Bonjour.
C'est nettement plus qu'en 2017 où on était plutôt autour de 25-26%. Comment ça s'explique?
Alors d'abord, il y a les thèmes de campagne qui sont très favorables à l'extrême droite en ce moment. Sécurité, terrorisme, immigration. L'autre raison, c'est la présence d'Éric Zemmour, car le polémiste ne siphonne pas seulement les voix de Marine Le Pen. D'après Christelle Craplet de l'Institut BVA, il attire aussi des électeurs de droite et des abstentionnistes.
Éric Zemmour parle un peu plus aux personnes de 65 ans et plus. Éric Zemmour parvient également en fait à séduire entre guillemets une partie des sympathisants LR. Il y a environ un quart des sympathisants LR qui seraient prêts aujourd'hui à voter pour Éric Zemmour. Et aussi, et ça c'est très intéressant, chez les personnes qui ne sont proches d'aucun parti. On sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de Français se disent proches d'aucun parti. Et on voit qu'une partie d'entre eux pourrait voter pour lui. Et c'est ce qui explique en fait aussi qu'on a ces niveaux d'intention de vote pour l'extrême droite.
Un quart des électeurs de droite tentés par le vote Zemmour, un chiffre qu'il faut tempérer puisqu'on ne connaît pas encore le candidat LR. Et tout l'enjeu pour la droite, ça sera de récupérer ces électeurs tentés d'aller voir ailleurs.
Vincent Derosier du service politique d'RTL. Les chiffres du chômage à présent au troisième trimestre, l'INSEE note une très légère hausse, plus 0,1% à 8,1%. Dans ce contexte, RTL s'intéresse depuis ce matin et tout le week-end à ces secteurs sous tension, ceux qui n'arrivent pas à recruter. Christian Panvert s'est rendu dans le plus grand restaurant routier de France, près de Châteauroux. Là-bas, faute de personnel, impossible désormais d'ouvrir 24 heures sur 24.
La cadence est infernale en cuisine et en salle, et pour cause, depuis la crise sanitaire, Dominique Thomas, le directeur de l'escale, a vu ses effectifs fondre.
On a perdu à peu près un collaborateur, tout service confondu, par semaine. On était 85 avant le premier confinement et 64 aujourd'hui.
Nicolas, 45 ans, est chef de cuisine. Il aime son métier malgré des horaires contraignants.
On fait 10h, 10h, 14h30 et le soir on revient à 19h jusqu'à 23h, 23h30.
Il travaille 3 week-ends sur 4, ce que n'acceptaient plus certains de ses collègues.
Il y en a, ils préfèrent partir pour un salaire moindre et avoir des heures plus cool.
Et pourtant, Dominique Thomas l'affirme ici, le salaire de base est autour de 2000 euros brut pour 39 heures hebdomadaires. Il ne peut pas augmenter sa masse salariale et envisage de développer le temps partiel. Et là, ça coince encore.
On ne peut même pas mettre en place ce qu'on a compris qu'il fallait mettre en place suite à ces désaffections, parce qu'il n'y a personne qui veut faire le travail. On ne peut pas s'en sortir s'il n'y a pas un booster pour que les gens consentent à venir au moins tester ces nouveaux horaires de fonctionnement.
En attendant de trouver la solution miracle, il cherche en urgence 4 serveurs et 3 cuisiniers.
Et Christian Panvert à Déol dans l'Indre pour RTL. Au lendemain de la journée de lutte contre le harcèlement scolaire, ce témoignage glaçant à présent, c'est celui de Sarah, 13 ans et demi, rouée de coups par 3 autres jeunes filles. C'était mardi à Albertville, tout près de son collège.
On m'a direct frappé, des claques. On m'a pris par les cheveux, on m'a balancé par terre. Puis on m'a mis des coups de pied partout dans le corps, dans les jambes, dans le dos. Dans le ventre, j'essaie de me protéger ma tête, m'a frappé de partout, sans pitié, sans rien. Elles rigolaient, elles insultaient. Il y a rien qui les arrêtait. Elles savaient qu'elles étaient filmées, du coup ça leur donnait encore plus envie de me frapper. Elles voulaient faire les belles devant leurs amis et tout. Je sais pas pourquoi on me fait tout ce mal alors que j'ai fait de mal à personne.
Tu veux que la justice t'entende?
Oui, je voudrais qu'elle m'entende, le procureur, et que les personnes qui font ça soient punies. Parce que moi, j'aimerais pas que ça arrive à d'autres personnes, ce qui m'arrivait. J'aimerais bien qu'on m'aide.
Témoignage glaçant, je vous le disais, un document RTL signé Serge Puyot. Le parquet de Chambéry annonce ce midi l'ouverture d'une enquête pour violence en réunion sur mineurs. Et puis à Douai, au procès du viol et du meurtre de la petite Angélique, l'avocate a requis ce matin la peine maximale, réclusion criminelle à perpétuité et une peine de sûreté de 30 ans de prison à l'encontre de David Rameau. Le verdict est attendu d'ici la fin de la journée.
Tout à fait autre chose à présent, ceux qui même prendront le train. Et en cette veille de week-end, vous avez peut-être prévu précisément de prendre le train.
Oui. Et sachez-le, s'il y a du retard, dans bien des cas, ce n'est pas la faute de la SNCF, mais des voyageurs.
Voie 3, en raison de la présence d'un bagage abandonné, le TGV Inouï est annoncé avec un retard.
Et oui, les bagages abandonnés, ce serait même la première cause de retard. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
On dit ça d'un air un peu taquin, mais c'est très sérieux.
Et oui, c'est devenu un sujet de préoccupation majeure cette année, car depuis le 1er janvier, figurez-vous que ce sont 500 000 minutes qui ont été perdues à cause des bagages abandonnés.
500 000,
c'est deux fois plus qu'en 2018, avant la crise sanitaire. Et depuis le début de l'année, 8 millions de voyageurs ont été retardés et 800 000 ont carrément vu leur train supprimé, selon les chiffres obtenus par nos confrères de Villerail Transport. Alors la faute à qui, vous allez me dire? Plutôt la faute à quoi surtout? La SNCF invoque le masque qui réduit le champ de vision, mais aussi le pass sanitaire obligatoire, car lors des contrôles, on pose son sac au sol et parfois, tout simplement, on l'oublie. Et du coup, tout cela déclenche l'intervention d'abord d'un chien renifleur, puis éventuellement des démineurs. Problème, c'est plus de 200 bagages oubliés chaque semaine partout en France. Du coup, la SNCF, elle va encore intensifier sa communication et vient même de nommer un monsieur bagage oublié en interne qui doit se pencher sur ce problème et proposer rapidement des solutions, on l'espère.
Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Touche, spécialiste transport ici à RTL. Et puis ce sera l'événement sportif du week-end, ce choc entre le 15 de France et les All Blacks. C'est du rugby, bien sûr, demain soir au Stade de France. Des Bleus qui, et c'est une première depuis la réouverture des stades, se sont entraînés en public cette semaine. Un millier de supporters à Marcoussis, Baptiste Durieux.
Et des supporters parfois très jeunes à quelques mètres des joueurs.
Ils sont impressionnants et aussi c'est leurs mollets. Leurs mollets sont impressionnants.
Une proximité qui permet aussi de se rendre compte de la réalité.
Elles sont beaucoup plus longues les touches. Bah, les plaquages, c'est violent je trouve quand même.
Lucas et Robin, eux, n'ont Dieu que pour Antoine Dupont et débrief l'entraînement du Français.
Il donne la balle à tout le monde, enfin il fait jouer. Ses passes parfaites, ses coups de pied parfaits. Allez Antoine Dupont et allez les Bleus quoi.
Les petits comme les grands, Félix et Théo, la trentaine et les étoiles. Plein les yeux.
On voit ça dérouler, Jaminet faire une course encore incroyable et avec Dupont à la fin, là, juste à côté de voir ça, c'est comme si on courait limite à côté d'eux.
L'engouement populaire est donc bien là et il est surtout mérité pour Daniel, supporter.
Les joueurs ont fait le nécessaire. Quoi qu'ils fassent comme résultat, ils donnent envie.
Et le résultat, la France l'attend, 21 ans que les Bleus n'ont plus battu les All Blacks à domicile.
Allez
Allez les Bleus, reportage signé Baptiste Durieux. Ce soir, c'est Raphaël Ibanez qui sera l'invité d'RTL. Rendez-vous à 18h15 avec Julien Cellier.
Les Français ne veulent plus travailler, ma bonne dame. Est-ce une réalité ou pas? Est-ce un problème de salaire? Dès aujourd'hui et tout le week-end, RTL s'intéresse à ces métiers en tension qui ont du mal à recruter. On va être avec un restaurateur dans une seconde.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Les gens, pour moi, n'ont plus envie de travailler. Il n'y a pas assez de différence entre les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas. Nous, on est dans des salaires à peu près de 1500 euros, nourris, logés, blanchis. Si on a 1300 euros au chômage, on n'a pas trop envie de revenir au travail.
Depuis la réouverture des établissements, ce restaurateur, vous venez d'entendre, est obligé de fermer un jour et demi par semaine, faute de personnel. Les gens, dit-il, ne veulent plus travailler. Alors, est-ce vraiment vrai? Est-ce uniquement un problème de salaire? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Bernard Vivier.
Bonjour.
Vous dirigez l'Institut supérieur du travail. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur RTL. Est-ce que c'est vrai de dire que les Français ne veulent plus travailler?
Ce n'est pas exact. Les Français n'ont pas moins envie de travailler. La preuve d'ailleurs, c'est que le chômage est en train de se réduire. Par contre, les Français n'ont plus envie de travailler comme auparavant. Il s'est passé beaucoup de choses et le confinement, le télétravail ont accentué des phénomènes que nous vivons aujourd'hui.
Ce restaurateur, il évoque le faible écart entre l'indemnité chômage et le salaire. Il dit, celui qui touche 1300 euros au chômage, il n'a pas envie de venir travailler pour 1500 euros. C'est une explication, ça, ou pas du tout, d'après vous?
C'est une explication, mais partielle. Mais c'est une explication. C'est la question de l'offre et de la demande. Il est très vraisemblable que les rémunérations dans l'hôtellerie-restauration sont jugées aujourd'hui trop basses. Et d'ailleurs, nous le vivons aujourd'hui. La profession est en train d'envisager un relèvement très significatif des salaires. Et puis, c'est une question de demande. C'est-à-dire qu'en effet, si des personnes considèrent qu'étant au chômage, elles ont des revenus de substitution très proches du revenu de travail, évidemment, elles ne vont pas être encouragées à travailler. Et nous voyons bien que la réforme de l'assurance chômage qui est en place depuis très peu de temps, qui a fait couler beaucoup d'encre, est une réforme qui pousse à la réinstallation rapide des chômeurs dans le travail.
Monsieur Vivier, je rappelle que vous êtes économiste et que vous dirigez l'Institut supérieur du travail. Quel est le premier critère que réclame un salarié lorsqu'il accepte un emploi?
Écoutez, si vous me permettez, je répondrai, il y en a deux. Il y avait, et jusqu'à présent, le salaire, la rémunération. Mais de plus en plus, et notamment chez les jeunes générations, c'est je travaille dans une entreprise, quelle est cette entreprise? Quelle est aussi cette finalité d'entreprise? les générations qui ont 50 ans et plus sont moins branchées sur ces sujets-là. L'entreprise, c'est un lieu où l'on produit, c'est un lieu où la rentabilité doit exister. Ceci est d'ailleurs moins contesté aujourd'hui qu'auparavant. La lecture un peu marxiste de l'entreprise est en train de s'affaisser. Par contre, des exigences grandissent jusqu'aux exigences écologiques ou d'installation de l'entreprise dans son rôle dans la société, pas uniquement dans la sphère économique.
Et la crise sanitaire a accentué ça, d'après vous ?
Oui, parce que le confinement, le télétravail ont un peu dégradé le sentiment que l'entreprise c'est un collectif, qu'on partage les mêmes valeurs. Et on voit bien que la réponse à la question comment faire pour motiver les Français pour qu'ils aillent travailler, il y a le salaire, mais il y a aussi tout ce qui concerne la vie, la dynamique collective de l'entreprise. Ça peut se traduire par des chiffres, la participation, l'actionnariat, l'intéressement, qui ne sont pas du salaire, mais qui sont la contrepartie d'un engagement de chacun dans l'effort de tous.
Manifestement, les horaires décalés, c'est le cas de la restauration, et puis c'est le cas de d'autres métiers, sont en difficulté aujourd'hui.
Oui, parce que là, ce sont des questions de conditions de travail. On en est au même registre, hein, c'est-à-dire que les conditions de travail, les horaires, la qualité de vie au travail, qui il y a encore 15 ans apparaissait comme une sorte de luxe dans les efforts de recrutement des entreprises, deviennent aujourd'hui des exigences. Les entreprises doivent faire de plus en plus attention.
Donc on ne travaille pas le samedi ou le dimanche, on ne travaille pas après 20h le soir, on ne travaille pas trop tôt le matin, donc il reste le temps d'ailleurs parfois pour travailler.
Ça.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut augmenter les salaires pour attirer ces nouveaux salariés, je pense à la restauration ?
Alors, la profession dans la restauration et l'hôtellerie est en train de réaliser des avancées dans cette direction. C'est-à-dire que, bien évidemment, travailler la nuit, travailler le dimanche, travailler le samedi est une nécessité parce que n'oublions pas que dans une entreprise, le vrai patron, c'est le client et c'est important de bien le servir, mais qu'il est aujourd'hui des catégories d'emplois qui nécessitent d'avoir des revalorisations de salaire.
Eh bien, merci. Merci beaucoup, monsieur Vivier. Merci d'être intervenu sur ce premier sujet. Le deuxième sujet, dans un instant, ça sera Charlène, l'épouse du prince Albert. C'est vrai que le travail, c'est toujours relatif. Lorsqu'on a la chance de faire quelque chose qui nous plaît, on n'a pas forcément le sentiment qu'on travaille. Mais imaginez-vous faire toute la journée quelque chose qui vous déplairait, vous seriez peut-être content quand arrive le vendredi. Alors que nous, il est vendredi. Et c'est toujours un crève-cœur parce qu'on ne se reverra pas avant lundi. À tout de suite.
N'en rajoutez pas non plus.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Personnellement, je la trouve amaigrie, je la trouve pas en grande forme, quoi. Oui, on est inquiet.
Ça fait un moment qu'il y a des hauts, des bas. Le gouvernement communique petit à petit en nous disant que ça va mieux, que ça repart. Donc on ne sait pas.
C'est la grande absente des festivités organisées aujourd'hui à Monaco. La princesse Charlène ne participe pas à la fête nationale. Elle a encore besoin de repos et de tranquillité. Voilà ce qu'a fait savoir le prince Albert II dans un communiqué cette semaine. Après des mois d'absence, la princesse a choisi de s'installer loin du palais. Alors pourquoi tant de mystères ? De quoi souffre-t-elle vraiment ? On en parle avec vous, Marion Alombert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la rédaction de Voici. Alors, on a entendu depuis plusieurs mois, il faut rappeler que Charlène était partie en Afrique du Sud. On a entendu plein de choses ces derniers mois. Une grave infection ORL, notamment. Est-ce qu'on sait vraiment de quoi elle souffre ?
Oui, tout à fait. On l'a écrit dans le Voici d'il y a 15 jours. En fait, oui, il y a une infection ORL, mais qui finalement n'était pas la cause de son séjour là-bas. Elle a été traitée pour une addiction à des médicaments. Ça fait plusieurs années que Charlène prend des médicaments, notamment des somnifères. C'est un cocktail qui est assez dangereux. Et il a été décidé qu'en Afrique du Sud, elle serait sevrée de ce traitement-là.
On a l'impression que la princesse Charlène n'est pas heureuse. De l'extérieur, on voit ses photos, on a l'impression que ce couple-là ne fonctionne pas. Est-ce que c'est une réalité ?
La réalité, c'est qu'elle ne s'est jamais vraiment intégrée dans la famille monégasque. C'est un milieu qui est très particulier. C'est quelqu'un qui n'a pas été élevé pour ça. Contrairement, voilà, tous les Grimaldi qui, depuis leur plus tendre enfance, sont élevés pour ce type de protocole, ce type d'événement, de fonctionnement qui est très particulier. finalement, Charlène, comme une Meghan Markle en Angleterre, a, elle, eu beaucoup de mal. C'était très violent pour elle quand elle est arrivée là-bas de s'intégrer dans cette famille avec qui elle n'entretient pas forcément plus de très bonnes relations et qui lui a mis beaucoup de pression pour qu'elle fasse aussi beaucoup d'événements, qu'elle soit la mère parfaite, qu'elle soit dans cette image d'Épinal de cette famille monégasque et du rocher en général, qu'elle ait ce rôle de représentation. C'est beaucoup de pression et elle n'a jamais vraiment réussi à s'intégrer.
C'est une famille dont on suit ici en France depuis des années et des années, toutes les déchirures, toutes les blessures. Mais là, on a l'impression qu'il y a un mystère particulier autour de cette princesse.
Oui, parce que c'était tabou, en fait, même si... presque tout le monde sur le rocher était au courant que la Charlène allait assez mal. On restait sur une communication finalement assez lisse.
Mais qu'est-ce qui est tabou, la dépression, là ?
Le fait, oui, puis de prendre des médicaments, d'avoir une addiction, bien sûr, c'est complètement tabou.
Mais quand le prince part pour l'Afrique du Sud, c'est une sorte d'ultimatum qu'il va proposer à la princesse Charlène. Il l'oblige d'une certaine manière à revenir en France. Il y a un contrat entre deux qui est passé ?
Non, il n'y a pas un contrat. C'est un couple qui est marié. Mais oui, il y a eu une pression pour qu'elle revienne d'Afrique du Sud pour la fête nationale. Elle devait même l'accompagner à Dubaï pour l'exposition universelle. Il savait que son état de santé était fragile, mais voilà, tout le monde était assez optimiste en disant que ça allait tenir au moins quelques jours. Sauf que quand Charlène est arrivée à Monaco, ils sont force était de constater que non, ça allait pas être possible. Et elle-même, en fait, a choisi aussi de partir parce que tout de suite en arrivant à Monaco, elle a ressenti ce mal-être qu'elle connaît de si bien, et la perspective de devoir assumer de nouveau la pression d'événements aussi importants pour les monégasques, elle a dit stop, elle a décidé d'aller se faire soigner en
Suisse. Déprime. J'ai lu Voici, comme chaque week-end, je n'ai pas vu de photo de la princesse Charlène. J'imagine que tous vos photographes planquent. Si par hasard, avec mon smartphone, je tombe sur la princesse Charlène et que je vous appelle, ça coûte cher le cliché de la princesse Charlène en ce moment ?
Alors, on ne révèle jamais ce type d'information, évidemment.
Vous avez combien, par exemple, de photographes ? Combien vous avez de photographes en ce moment qui planquent pour essayer de savoir où elle est ?
Non, on n'en a pas qui planquent. Et si on en avait, peut-être que je ne vous le dirais pas non plus. Et honnêtement, Charlène est dans une clinique ultra spécialisée, sécurisée en Suisse.
Je ne le savais pas.
En fait, elle est arrivée à Monaco. Elle est partie 7 jours après en Suisse chez des amis. Et elle doit se faire admettre cette clinique, dont on ne révélera pas le nom parce que justement...
Et ça vaut combien le cliché, demandait Amandine ?
Une fourchette, c'est plusieurs milliers d'euros.
C'est 100 000 euros, c'est 200 000 euros.
Je vous dirais absolument pas.
Bah oui, mais on a des photos.
Mais c'est par curiosité, c'est pas...
Vous pouvez nous donner une fourchette, c'est plutôt 100 000, 200 000, moi j'ai aucune idée, je suis naïf là-dessus.
Absolument pas, oulala.
10 000 ?
Beaucoup trop.
C'est beaucoup trop.
Ah oui, c'est beaucoup trop. Oh là là, j'aimerais qu'on ait autant d'argent, mais dans la presse print. Mais
donc c'est 20 000, 30 000.
Je ne vous dirai pas.
Bon. C'est moins de 100 000.
Si vous souhaitez une photo de moi, je vous la donne gratuitement.
En maillot de bain.
Avec plaisir.
Je vous en prie. Bon, merci Marion Alombert, c'était intéressant. Et puis il y a une information, moi je n'avais pas entendu que la princesse Charlène était en Suisse, me semble-t-il. Donc c'est vrai qu'on est toujours intéressé par la famille royale, qu'elle soit monégasque ou anglaise. Ça fait partie des débats et des informations qu'on suit. Merci beaucoup, il est quasiment 12h58. Vous pourrez réagir sur cette princesse Charlène et sur ce couple de Monaco et d'une manière plus large. Peut-être êtes-vous monégasque et avez-vous envie de parler de la fête nationale. À tout de suite.
RTL Midi.